Grenoble et dans toutes les villes de France et de Navarre, la condition des gens, la population, les jeunes, les moins jeunes, sont concernés directement au premier chef par l'éducation populaire. Alors c'est un vaste mot qui recouvre des réalités très différentes selon les territoires, selon l'histoire locale et selon ce qu'on a envie d'y mettre dedans. En tout cas, c'est le moyen d'accéder à la culture pour tous et par tous. La culture, mais aussi le sport, l'éducation, bref, former à la citoyenneté, pas seulement celle qui est sur le papier, mais bel et bien celle que l'on vit à travers eh bien, nos vies de citoyens lambda, quelles que soient nos origines et nos conditions sociales. Afin de parler des états généraux de l'éducation populaire qui se tiendront du 18 au 20 novembre à la Bastille de Grenoble, par un collectif qui s'est monté depuis quelques mois, je suis en compagnie de deux personnes. Un membre du collectif, c'est Thomas Clémenceau, et la coordinatrice de ces états généraux, c'est donc Marielle Humbert, qui vont nous parler du pourquoi, du comment d'une telle manifestation et aussi du contenu de ce qu'est l'éducation populaire aujourd'hui. Alors je vais commencer par la coordinatrice, Marielle, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, question toute simple, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On sait bien que l'éducation populaire est née après-guerre, en gros, dans une France chaotique, où on souhaitait que bien, les gens s'éduquent, accèdent au sport, à la culture. C'était les vieux Pieux de Villard, de Malraux et tous ces gens-là. Aujourd'hui, en 2011, on s'aperçoit qu'il y a des grands manques, des grands troubles dans cette société. Comment vous définiriez aujourd'hui même cette éducation populaire?
Pour moi, l'éducation populaire, c'est vraiment ce côté d'action culturelle, sportive ou dans différents domaines qui vise à l'émancipation aussi bien individuelle mais surtout collective, qui vise à construire un peu cette articulation entre l'individu et le collectif. On ne veut pas émanciper l'individu contre les autres mais bien pour le groupe, pour construire quelque chose, un collectif qui fasse lien, qui fasse sens pour tous. Voilà, donc ça se passe aussi bien voilà, dans des associations à visée sportive que également autour de la culture, de la pratique artistique, également de l'accès, pas seulement à de la pratique artistique, mais à de la connaissance artistique, que dans des formes très différentes également d'organisation de collectifs sur des problématiques très quotidiennes. Ça va être par exemple des coopératives de parents qui se montent. On est aussi dans de l'éducation populaire, on est dans de l'action collective, des collectifs d'habitants, des collectifs en tout genre autour où on se regroupe pour créer ensemble quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est ce côté émancipation et action dans le collectif.
Alors, on sait bien que depuis de longues années, les institutions publiques, alors vraiment dans leur grande globalité, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les conseils généraux, régionaux, bref, essaient de toucher au plus près les populations qui sont de plus en plus éloignées, on pourrait dire, de cette notion de citoyenneté active, de vivre ensemble, de créer des choses ensemble, du commun, de partager finalement des idées, une vie commune, parce que la vie, parce que des conditions économiques, parce que aussi certaines politiques pas très heureuses. Bref, aujourd'hui, pourquoi c'est important de faire le lien entre le citoyen, alors militant, celui qui est aussi pas seulement consommateur, mais qui a envie aussi de partager des choses, et puis l'institution qui est aussi là pour financer, pour épauler dans le meilleur des cas. Pourquoi ce lien est important à consolider, à réinterroger aussi, je dirais?
Pour moi, le lien déjà en général, c'est essentiel puisque la plus grande problématique qu'on a dans nos sociétés, c'est l'isolement des personnes aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus gros problème sociétal qu'on a. Et du coup, le lien entre le citoyen acteur et l'institution, il me semble évident puisqu'on est dans un système de démocratie représentative. Donc si on n'a plus ce lien-là, à un moment, nos démocraties ne veulent plus rien dire et on est dans un système qui n'existe pas. On est quelque part dans une forme d'utopie. Mais ce lien-là, pour moi, doit se faire entre tous les citoyens et l'institution. Il doit être fort, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un gouvernement de haut en bas, comme bien souvent c'est le cas, mais également il y a la consultation citoyenne, et pas seulement, moi je dirais pas seulement la consultation citoyenne, puisqu'il ne faut pas forcément attendre tout de ce lien non plus entre institutions et individus. À titre individuel, en tant que citoyen, on peut faire beaucoup de choses indépendamment même de nos institutions. Et pour autant, l'institution, puisqu'elle est représentative et donc elle a été élue à un moment, peut développer des programmes qui, par moment, entreront en désaccord avec certains citoyens. Et ça fait partie du jeu démocratique. Mais pour moi, il y a un enjeu aussi de contre-pouvoir. Pas pour aller contre un système, mais pour proposer d'autres choses, puisque l'institution ne veut pas tout. Sinon, on est dans un système totalitariste. Et du coup, il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics. Dans ce cas-là, on peut beaucoup de choses au niveau citoyen en s'organisant collectivement, encore une fois. Donc avoir du lien, pour moi, c'est aussi essentiel déjà d'en avoir avec ses voisins, avec les gens dont on est proche et d'agir sur quelque chose de très local.
Oui, on n'est pas seulement dans de la théorie généreuse, un petit peu comme ça utopiste, mais bel et bien dans du vivre ensemble. Comment on fait pour finalement rencontrer l'autre, le respecter et même accepter ses différences? Alors Thomas, vous êtes membre du collectif des états généraux de l'éducation populaire. Par ailleurs, vous êtes animateur et responsable dans une MJC à Grenoble. Au quotidien, comment on vit cela? cette éducation populaire. Est-ce qu'à un moment donné, c'était important pour tous les acteurs, puis alors pour ceux qui fréquentent aussi ces structures-là, les citoyens tout simplement, vous et moi, de se réinterroger sur des pratiques? Il y a un éloignement qui s'est créé au fil du temps, au fil des années, entre la population de manière très globale et puis ces acteurs qui proposent eh bien, une éducation populaire, encore une fois à géométrie variable.
C'est un problème complexe, cette question de comment on vit l'éducation populaire à l'intérieur de nos associations. Parce que chacun vient avec ce qu'il est, ses motivations, ses valeurs. Et ce qui est de plus en plus compliqué dans un monde où on est souvent rappelé à notre réussite personnelle, de se, toujours se remettre en tête que la réussite personnelle, elle ne vaut rien du tout, que, puisque si on est seul, ça ne sert pas grand-chose, quoi. Donc, à l'intérieur de nos associations, c'est vrai que pour ce que je vis au quotidien, il y a encore beaucoup de gens qui s'investissent dans la vie associative, dans des activités, des loisirs, etc., et qui ont cette envie d'avoir dans leur existence une autre alternative à simplement vivre pour alimenter une société marchande, mais bien pour vivre en fonction d'un idéal personnel qui est de l'ordre de ce que disait Marielle, c'est-à-dire de l'épanouissement. Disons que la difficulté, c'est de le faire dans une conscience collective. Pourquoi j'ai choisi aussi de faire partie de ce collectif pour qu'on s'interroge collectivement à comment on fait vivre aujourd'hui l'éducation populaire, cet héritage un peu de la résistance quand même, c'est que avoir des loisirs, c'est bien, c'est important, mais c'est pas suffisant. Le problème est plus complexe. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire société, c'est-à-dire de s'organiser ensemble pour améliorer notre quotidien. Et alors, on a deux options. C'est soit on attend tout de l'institution, et comme le disait Marielle, alors là, on est plutôt dans un système soit totalitaire ou un système monarchique. Ça peut marcher, hein. Soit on décide qu'ensemble, on est capable de créer les conditions d'une vie meilleure. Donc on est dans démocratie. Et là, c'est là que ça devient complexe. Je crois que l'actualité montre que ce pouvoir que le peuple est censé avoir est bien mis à mal et que chaque citoyen a la responsabilité de faire en sorte qu'on arrive à s'organiser, quoi. Voilà, c'est la question qu'on pose aujourd'hui, quoi. C'est comment on refait vivre et où on fait vivre la démocratie au quotidien dans nos emplois, pour ce qui nous concerne, parce qu'on a choisi de s'investir dans cette dynamique-là, mais aussi dans nos vies, parce qu'on n'est pas que des professionnels ou des choses comme ça, on est d'abord des citoyens, quoi. Et ce qui est intéressant dans ces états généraux-là, enfin, comme on a développé cet événement, c'est qu'on retrouve et on a essayé de faire en sorte de faire un événement suffisamment ouvert pour qu'il y ait autour des tables de réflexion des élus associatifs, des professionnels, des citoyens et des élus des collectivités. Et qu'enfin, on puisse avoir ce temps-là et se donner le temps de reposer les bases.
une manière finalement de mettre en commun à un moment donné des convergences d'idées assez générales, mais s'interroger sur les méthodologies à employer au quotidien dans la pratique, je dirais, individuelle de chaque structure, de chaque élu, de chaque salarié et citoyen pour refaire sens, remettre du sens sur des actions qu'on voudrait collectives pour créer une société dite meilleure, alors vœux pieux évidemment. Très concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez organiser une sorte de grand raout où chacun pourra venir, quel qu'il soit, un homme, une voix, c'est-à-dire, et chacun proposer concrètement sa vision d'une société qui pourra aller mieux, cette façon de générer du vivre ensemble, c'est cela, Marielle?
Alors moi, je dirais pas seulement sa vision, parce qu'on n'est pas sur uniquement du débat d'idées et dans une projection idéale. On est concrètement là, comment on fait demain pour améliorer les choses, pour construire quelque chose qui change vraiment voilà, à notre échelle, donc à notre niveau. Il y a vraiment cette idée de, ok, on va brasser les idées, ça c'est certain, mais demain, comment on met en place ces idées-là dans nos vies, vraiment au quotidien? C'est permettre évidemment à n'importe qui, puisque c'est des états généraux ouverts à tous, de venir et de réfléchir ensemble sur ce qui fait sens aujourd'hui. Donc nous, on a proposé des entrées qui sont très ouvertes, où on va voilà, poser des questions très concrètes dans des formats vraiment participatifs. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun expert d'expertise pour dispenser un savoir. Voilà. On est parti du parti pris que chacun d'entre nous, chacun d'entre toutes ces personnes qui vont participer, est porteur d'une richesse, porteur de savoir. Et c'est mettre en commun ces savoirs-là, les échanger, pouvoir les mettre sur la table. Et qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'une personne extérieure, mais qu'on va faire avec les gens présents. Et je pense que c'est vraiment l'idée dominante du collectif, et c'était la volonté depuis le début. C'est surtout faire avec les gens qui ont envie de s'investir, qui ont envie de changer les choses, qui se mobilisent. D'où ce mot d'ordre entre résistons, mobilisons, transformons. Résistons parce que dans notre société, voilà, il y a plusieurs problématiques qui sont graves, il y a plusieurs choses qui vont mal, comme dans n'importe quel système. Et du coup, à un moment, c'est être capable de dire bah non, moi je veux pas de ce monde-là, donc oui, je me mets en résistance. Et une fois qu'on a décidé ça, on peut se tenir debout, on peut avoir la force de proposer. Mais si on propose seul, finalement, ça n'a aucun impact. D'où l'idée, la deuxième idée, c'est de mobiliser. Mobiliser pour y aller ensemble. Et ensuite, mobiliser autour de quoi? Bah parce qu'on veut changer les choses. Et c'est se mettre dans cette dynamique-là. Pas seulement dire non, et puis une fois qu'on a dit non, on boude et on croise les bras. Non, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trousse les manches et on y va ensemble et on transforme. Et c'est vraiment des journées qui visent à ça. Qu'on en ressorte le dimanche, non seulement avec l'envie de changer les choses, mais surtout avec la possibilité de le faire. Parce que là, on sent une force collective. Et que ce changement-là, on ne va pas le mettre en place dans 3 siècles. Dans 3 siècles, il n'y aura aucun de nous qui sera encore là. Mais on le met en place aujourd'hui dans nos vies et dans nos quotidiens. Et ça donne cette force, le collectif aussi. C'est de se dire, voilà, il y a des envies qui sont un peu éparpillées. Il y en a dans chacun d'entre nous. Et à un moment de se regrouper et d'y aller ensemble, ça donne une force et ça donne un impact. Puisque les changements de société ou les changements de paradigme, un peu de façon de penser, globaux, ils viennent uniquement parce qu'il y a eu plein de changements locaux. Je crois vraiment à cette théorie-là, quand il y a un galet qui change et qui bouscule les 10 autres à côté, ben il bouscule encore les 10 autres. Et il y a ce côté où on peut diffuser des choses, du changement. Et le changement, ça vient sur des initiatives très locales, à notre échelle, et ça vient de là.
Alors, il y a des entrées intéressantes. Il y a par exemple, le samedi 19, l'éducation populaire réfléchit et construit, avec des journées débat-réflexion un petit peu provocatrice comme ça, pour susciter justement cette réflexion que vous attendez lors de ces 3 jours des rencontres. Il y a « Face aux financeurs, mieux vaut baisser la tête », point d'exclamation. L'éducation populaire, c'était mieux avant. Bon bref, vous êtes aussi comme ça dans une typique gentillée. Est-ce que c'est facile de réunir autour de la table, alors des tables diverses et variées, des institutions qui sont historiquement référentes, par exemple la cohésion sociale, la politique de la ville, qui sont eux des financeurs historiques de tous les réseaux qui maillent les territoires français, mais qui aussi doivent se réinterroger sur leurs pratiques, parce qu'on s'aperçoit que les quartiers populaires, depuis 30 ans, ça va pas fort, quoi, en gros. Hein. Vous pensez que la controverse, que la remise à plat sera possible sur place, Thomas, par exemple?
On n'a pas le choix que de rentrer dans la confrontation d'idées, quoi. On n'est pas là pour être tous d'accord. Au contraire, on a le devoir de ne pas être d'accord et de voir ce qu'on en fait. Je crois qu'on a perdu cette capacité-là à exprimer nos divergences et à construire sur nos divergences. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Alors, le but, c'est pas que ça devienne un pugilat organisé, mais au contraire de dire, ouais, on a le droit de ne pas être d'accord et on va l'affirmer. Et puis, on va voir comment on arrive à construire quand même ensemble. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive à construire ensemble.
Il y a une urgence, selon vous, Marielle, selon les membres du collectif. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que notre société française ne va pas terriblement, notamment pour les classes les plus éloignées du pouvoir d'achat, ou et ceux qui sont loin de la culture, ceux qui sont loin de l'emploi. Bref, il y a des questions comme ça très essentielles qui remettent en cause, finalement, ce vivre ensemble quand on a des difficultés au quotidien pour manger, se vêtir. Tout simplement, bah, c'est compliqué d'aller à la rencontre de l'autre. Ça fait partie des mouvements que vous voulez impulser avec, évidemment, tous ceux que ça concerne et les citoyens au premier chef.
Pour moi, oui, il y a urgence, c'est certain, parce qu'on est pris dans des enjeux de crise, une crise qui n'est absolument pas conjoncturelle, mais qui est structurelle. Pour moi, on est à la fin d'un système et il faut réinventer. Et du coup, pour réinventer, non pas dans l'urgence et laisser à ce moment-là un peu toutes les haines s'exprimer, toutes les tensions s'exprimer qui ne vont pas être créatrices, c'est avoir en amont du conflit créateur, justement, parce que le conflit est créateur d'idées. Quand on n'est pas d'accord, ben voilà, il y a des divergences et on va apprendre à faire du consensus. Mais ce n'est pas un consensus mou, c'est un vrai apprentissage. Pour moi, c'est voilà, il faut qu'on avance parce que de fait, l'humain, il n'existe pas seul, comme le disait Thomas. On existe, on fait société, c'est un fait. On est dans un collectif, on est dans le collectif. Et du coup, tout l'enjeu pour moi, c'est d'organiser ces collectifs-là aujourd'hui, de reprendre conscience qu'on n'est pas responsable, non de notre devenir individuel, ça parce qu'on part pas, on n'est pas né sous la même étoile, hein, donc on ne peut pas être responsable de la même façon de notre trajectoire individuelle. Par contre, on est responsable du devenir de notre voisin, parce que de fait, c'est notre voisin, donc on est un collectif avec lui. Et c'est reconstruire cette notion de responsabilité collective, pour moi, qui est essentielle. Parce qu'un individu isolé, c'est un individu qui est fragile. Un individu qui est inséré dans un collectif, déjà, il est plus fragile parce que le collectif est là pour le soutenir. Et pour moi, ça, c'est une grande différence entre des sociétés comme, je prends l'exemple de l'Argentine que je connais personnellement, où on n'est pas pauvre seul, on est pauvre ensemble. D'accord, ben, on est pauvre, c'est le même phénomène. Mais ici, en France, il y a ce phénomène de SDF, d'isolement. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est le plus grand mal de nos sociétés, ce phénomène d'isolement de l'individu, puisque l'individu n'est pas fait pour être seul. Il est de fait inséré dans un groupe. Donc oui, il y a urgence à agir, il y a urgence à organiser pour justement reconstruire ce lien. Et qu'au moment où il y a une crise qui va se prononcer de façon un peu plus grande, on parle de la Grèce, on parle de l'Espagne, du Portugal, la France, elle est dans 2-3 ans, elle sera là. Mais pour moi, c'est une crise qui sera aussi porteuse d'espoir, beaucoup. Dans la vie, voilà, on devient adolescent, il y a la crise d'adolescence, puis il y a une crise un peu pour l'âge adulte. Ben, une société, c'est pareil, elle grandit et elle apprend dans les crises, dans les conflits, dans les moments un peu où elle est fragilisée. Et finalement, c'est nos sociétés qui ont eu l'impression de ronronner sur un confort qui est hyper artificiel, qui se retrouvent aussi confrontées aux failles d'un modèle. Parce que le modèle capitaliste, elle est au bout de quelque chose. Il y a d'autres choses à inventer, mais c'est porteur d'espoir. C'est pas sauver à tout prix un modèle, c'est pas mettre du pansement. Là, c'est maintenant amorcer un vrai changement dans la société en construisant du lien entre les gens, justement, en tissant à nouveau cette notion de responsabilité collective, moi, qui me tient à cœur.
Très bien, merci à vous, merci à Thomas, merci à Marielle, merci évidemment à l'ensemble du collectif qui comprend de nombreuses structures associatives, des CCAS, mais également des élus de tous bords, des collectivités qui nous entourent. Et puis, évidemment, de dire que ces états généraux de l'éducation populaire concernent le citoyen à titre individuel, mais donc collectif, dans cette ouverture d'esprit que vous proposez, vous, avec des pistes de travail qui, donc, s'étaleront sur 3 jours, du 18 au 20 novembre à la Bastille de Grenoble. Si vous voulez avoir des renseignements, des informations sur la tenue des ateliers, les dates des rendez-vous, les festivités qui seront aussi aux alentours de tout ce raout, vous allez sur internet, c'est educ-pop-grenoble.fr.ht et là vous aurez un petit peu toute la programmation et tous les ateliers qui s'initieront pendant ces 3 jours. Merci à vous, merci de susciter comme ça la réflexion sur notre quotidien, finalement, celui des citoyens français, quel que soit encore une fois les conditions sociales, d'éducation ou que sais-je, on est tous amenés à vivre ensemble, donc autant que ça se passe le mieux possible et réfléchissons ensemble à un devenir un peu plus heureux que seulement être une marchandise à vendre ou à acheter. Merci à vous, très bonne continuation, au revoir.
Merci. Merci.